L'avenir est aux fantômes. C'est une de mes phrases préférées et on la doit au philosophe Jacques Derrida dans un film anglais où il apparaît aux côtés de Pascal Augier en 1983. Alors pendant longtemps, moi, cette phrase, l'avenir est aux fantômes, je la comprenais pas. Pour moi, le fantôme, c'était justement une figure du passé qui revient nous hanter. Mais Derrida parle d'aujourd'hui. Il explique que le développement de la technologie, de l'image, de la télécommunication décuple les fantômes. Et plus le temps passe, plus je comprends que notre époque moderne qui enregistre, qui projette, qui répète, qui rejoue éternellement les sons et les images, c'est une époque propice aux fantômes. La télé, la radio, mais surtout Internet et les réseaux sociaux, ce sont des maisons hantées qui se sont disséminées et dont les spectres vous poursuivent jusque dans votre intimité. Quand tout partout se donne à voir et à revoir, quand tout partout s'écoute et se réécoute, quand tout partout s'immortalise, on leur donne la possibilité de revenir aux fantômes. Et vous aurez beau me parler de faits, de vérité, de présent, d'actualité, je dis avec Derrida que la modernité a ouvert un champ qui relève de l'irrationnel et de la magie. Puisque l'avenir est aux fantômes, la question n'est plus « est-ce que vous croyez aux fantômes ?» Ce serait au mieux naïf, au pire inepte. Je propose « dis-moi quel fantôme te traverse, je te dirai qui tu es » et j'ai déjà ma petite idée.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang par quel fantôme. Mon invité d'aujourd'hui est-il hanté? Il est auteur de bande dessinée, écrivain aussi. Son livre, Les amours d'un fantôme en temps de guerre, après avoir remporté le prix vendredi, le mois dernier, est dans la sélection pépite du Salon du Livre de la Presse Jeunesse de Montreuil, qui ouvrira ses portes demain. C'est l'histoire d'un petit fantôme qui se trouve embarqué dans les tourments de la grande histoire. Bonjour Nicolas de Crécy.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, quels sont les fantômes qui vous hantent, vous?
Voilà une question difficile. Je pense qu'on se construit toujours avec une mémoire familiale, donc j'imagine que mes fantômes viennent aussi d'une mémoire familiale. Il se trouve que ma famille est extrêmement nombreuse et assez ancienne, donc je connais à peu près les fantômes, enfin je connais bien mon ascendance, et tous les fantômes, enfin ceux qui sont censés être les fantômes qui m'habitent, je les connais par leur prénom finalement.
Ce sont des ancêtres, ce sont les tableaux.
Oui, les ancêtres, oui. Quoi, on peut remonter jusqu'en 1200 et quelques, donc des fantômes, il y en a pas mal. Donc c'est pour ça que voilà, il y a de la matière.
Il se trouve que votre dernier livre, Les amours d'un fantôme en temps de guerre, témoigne de résurgence, de présence, de revenance, pourrait-on dire, contemporaine, face à la montée des populismes, notamment face à la colère aussi. Quel spectre est-ce que vous avez le sentiment de voir réapparaître aujourd'hui, vous?
Bah, c'est un spectre qui est évident, enfin qu'on peut constater depuis quelques années, le spectre d'une montée du populisme, enfin ça c'est assez, enfin c'est quelque chose qui est très très visible. Et en fait, quand j'ai commencé ce livre, c'était en 2015-2016, et en fait j'étais parti sur juste l'histoire du petit fantôme et de son histoire amoureuse, et en fait j'ai dérivé un petit peu par rapport aux inquiétudes que j'avais à l'époque. C'était les primaires avec Trump, dont on sentait qu'il allait bientôt prendre le pouvoir sans aucun doute. Il y avait le Brexit, enfin il y avait plein de choses comme ça qui m'inquiétaient un petit peu. Donc le propos du livre s'est un peu détourné de ce qui devait être au départ.
Alors quel fantôme précisément, quand vous dites les montées du populisme, vous pensez à quoi, aux années 30? Aux années 40?
Non, parce qu'on peut pas faire un parallèle. Enfin, historiquement, les choses sont toujours un peu différentes. On peut pas.
Certains le font.
Oui, certains le font. Ça a été fait effectivement assez récemment, mais je dirais qu'il y a des choses. Non, c'est simplement des choses qui m'inquiètent par rapport à. Il y a un désarroi identitaire qui fait que les gens votent plutôt pour des personnes autoritaires, et on ne sait pas vers quoi ça peut dériver en fait. Et comme ça devient un problème mondial et de plus en plus évident, c'est vrai que ça pose une inquiétude.
À vous entendre, effectivement, le livre semble émaner de la menace qui pèse sur nos démocraties. Je me souviens de Période glaciaire, un autre de vos livres paru il y a 13 ans, où vous évoquiez en filigrane les conséquences du changement climatique. Et la question que je me pose, c'est comment vivre en fait avec l'angoisse, parce que ça semble avoir quelque chose à voir avec votre processus de création, Nicolas de Crécy.
Ça dépend des livres. En fait, il y en a qui sont plus légers, il y en a où la thématique est vraiment... Enfin, je m'amuse avec un récit léger, et puis d'autres où, effectivement, qui sont peut-être un peu plus politiques, c'est le cas de celui-ci. Et ce qui m'intéressait, c'est de faire un livre accessible. C'est-à-dire, j'ai fait des bandes dessinées qui sont un peu plus... qui sont plus des laboratoires, enfin des choses plus qui se relèvent plus de la recherche narrative, de la recherche graphique. Et là, j'ai vraiment voulu faire quelque chose d'accessible par l'écriture et par le dessin, justement pour partager ces inquiétudes.
On comprend les inquiétudes. Qu'est-ce qui vous fait peur, vous, précisément, dans la vie?
La mort. Non mais comme tout le monde, ce qui me fait peur, oui, c'est l'angoisse de mal terminer. Mais après, les peurs, elles sont diverses et variées, enfin comme tout le monde.
Ça voudrait dire quoi, mal terminer?
Que ce soit long, que le passage soit long. Je préférais que ce soit assez rapide.
Et les fantômes, jamais ils ne vous ont effrayé, vous ?
Mais je crois pas spécialement aux fantômes. Donc, effectivement, moi, j'ai pas ce. Je suis assez cartésien. Donc, les fantômes, c'est pas quelque chose qui me. Quoique, j'avais un peu l'impression de croiser des fantômes quand j'étais au Japon, parce que j'ai résidé à peu près 6 mois au Japon.
Pays de fantômes, s'il en est.
Pays de fantômes, absolument, il y en a beaucoup. Et en fait, j'étais dans une résidence artistique qui s'appelle la Villa Kujoyama, qui est l'équivalent de la Villa Médicis, et qui se trouve à Kyoto. Et je me promenais beaucoup dans les montagnes autour. Et là, il y a une ambiance qui est vraiment très très particulière et on peut voir des fantômes apparaître. Et après, je me suis beaucoup renseigné justement sur toute cette mythologie japonaise. Et là, il y a une infinité de fantômes et qui ont le bon goût d'avoir énormément d'humour, en fait. Et ça, c'était vraiment, c'est un plaisir d'aller décrire tous ces fantômes, enfin, de faire leur connaissance par les arts graphiques, en fait. Parce que les fantômes dans la culture japonaise existent beaucoup par les arts graphiques.
Mais petit, on invente tous des fantômes. Et en l'occurrence, en France et dans le monde occidental, des fantômes qui font un peu peur. Vous en inventiez, vous ?
Non, moi j'avais peur du noir comme tout le monde, enfin comme beaucoup d'enfants, mais c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup d'imagination, donc l'imagination est propice à s'inventer des fantômes. Donc c'est vrai que petit, j'aurais jamais dormi seul dans une maison, mais ça c'est quelque chose que beaucoup de gens partagent. Après, oui, les fantômes traditionnels, enfin j'aime bien ce côté du fantôme classique tel qu'on le représente en Occident, c'est-à-dire le petit drap blanc qui se déplace et qui est comme c'est un drap blanc, c'est vrai que n'importe qui peut s'identifier et mettre l'histoire qu'il veut sur ce fantôme.
Et c'est vrai qu'à vous lire, Nicolas de Crécy, les fantômes hantent l'histoire de l'art sous forme de toge ou de drap. Ces fantômes faits de drap blanc, quelle couleur est-ce que c'est d'ailleurs pour vous le blanc ?
Le blanc, en fait, me permet, en tout cas au niveau plastique, au niveau graphique, le blanc, et c'est ce qui m'intéressait aussi avec ces fantômes, c'est une tache blanche sur laquelle le regard, parce que le regard va toujours sur ce qu'il y a de plus clair. Et donc le regard va se focaliser sur le drap blanc et autour. Moi, ça va me permettre de, au niveau du dessin, d'aller très loin dans les décors, de poser une ambiance très poussée, très forte, et de me régaler avec le décor, alors que le personnage lui-même sera juste un espace blanc. Donc l'œil va pouvoir s'immiscer dans cet espace blanc et va pouvoir s'imaginer effectivement tout ce qu'il veut.
N'empêche, c'est assez passionnant. Je lisais hier un article du Monde qui racontait que la couleur des fantômes change. Et précisément, il a le fantôme dans les expositions, dans l'art, mais aussi en littérature, beaucoup plus de couleurs. Je pose ça là.
Beaucoup plus de couleurs.
Ouais. Alors, ça dépend. Il devient coloré.
Il devient coloré.
Il se colore, le fantôme.
Ah bon, alors il faut que je réétudie les spectres.
Ah non, moi j'adore vos fantômes blancs, Nicolas de Crécy, mais ça m'interrogeait. Mais dans ce livre, vous ne vous contentez pas de dessiner des fantômes, vous inventez en fait un monde parallèle avec sa propre histoire, ses propres codes, sa propre culture. Et ce qui m'a intrigué, c'est que vous écrivez que ce que vivent les fantômes est toujours une anticipation de ce que vivront les humains plus tard.
Oui, c'est comme une espèce de prémémoire. En fait, j'ai inversé le système parce que je trouvais ça amusant. Enfin, c'était très pratique pour le propos que j'avais par rapport à notre avenir, c'est-à-dire de dire, enfin, ces fantômes, ce petit fantôme vit au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, dans le monde parallèle, c'est la guerre des fantômes qui se déroule avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est ce monde parallèle et c'est ça, ils ont une prémémoire plutôt que d'avoir une post-mémoire comme on pourrait imaginer que ce soit le cas pour des fantômes. Le miroir est inversé en fait et ça me permet de jouer narrativement, de jouer avec plein de choses intéressantes.
L'avenir est aux fantômes, Nicolas de Crécy.
Dans mon livre en l'occurrence, l'avenir est aux fantômes, mais il n'est pas des plus optimistes. Mais
tiens, par exemple là, à ce moment précis là, qu'est-ce qui se passerait dans ce monde invisible et fantomatique là? C'est à l'imagination toute puissante de l'auteur que je m'adresse. Vous le savez, vous l'imaginez, vous l'avez dans votre tête, cet inframonde ou cet autre monde?
Ah ben, en tant que dessinateur, en tant qu'artiste, on a toujours un autre monde, on a toujours un monde parallèle à l'esprit, dans la tête, parce que c'est le monde qu'on révèle par son expression, en l'occurrence, moi, c'est le dessin, là, je me suis essayé à l'écriture, parce que c'est aussi, intellectuellement, ça m'intéressait beaucoup de travailler un autre système, un narratif, mais c'est vrai que je pense avoir un monde parallèle très, très, assez riche et j'ai peur de pas avoir le temps de sortir tout ce que j'ai dans une certaine partie de mon cerveau.
La question que je me pose en lisant votre livre, c'est qu'adviendra-t-il de la mémoire lorsque les derniers témoins de l'époque que vous explorez seront plus là pour témoigner en réalité, comme si les fantômes en réalité étaient ces derniers témoins qu'on fait revenir.
Oui, absolument, les fantômes. Enfin, quand les derniers témoins ne seront plus là, effectivement, cette histoire deviendra écrite et dite par des fantômes, puisque voilà, on n'aura plus de vivants pour nous en parler. Donc c'était ça aussi qui m'intéressait dans le fait de faire écrire un fantôme, parce que le ce qu'on lit, ce qu'on a sous les yeux, le fantôme parle à la première personne, donc c'est son témoignage. Et pour moi, c'était intéressant de dire le côté mémoriel peut passer déjà par l'écriture, évidemment, mais par le fait que ce fantôme, par son écriture, ne sera plus un fantôme, puisque ce qui va écrire va rester sur le papier, donc on pourra le lire.
Est-ce que ça a à voir, Nicolas Crécy, avec une tendance qu'on aurait aujourd'hui à oublier?
Oui, parce qu'on est dans une surréalité, dans une surinformation, une information continuelle, et on est dans un temps toujours présent, en fait, et qui fait que qui empêche d'avoir une vision de l'avenir, parce que l'éternel présent empêche de bien analyser le passé, à mon avis.
C'est vrai qu'il y en a une qui oublie tout. Dans cette émission, malheureusement, vous la connaissez sans doute, c'est la culture. Et son actualité moins fantôme que troll, zombie ou corrigan. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 27 novembre?
I have decided that you will be the new lord of 10,000 years.
The last emperor.
Initial bébé, le cinéaste italien Bernardo Bertolucci s'est éteint hier à Rome. Il avait 77 ans, sulfureux, polémique, taché par le scandale du dernier tango à Paris qui brisa la carrière et la vie de l'actrice Maria Schneider. Bertolucci restera néanmoins comme l'un des derniers monstres sacrés du cinéma européen d'après-guerre. Co-scénariste d'Il était une fois dans l'Ouest, il est aussi l'auteur de films cultes comme Prima della Rivoluzione, Little Buddha, The Dreamers ou Le Dernier Empereur, qui lui valut pas moins de 9 Oscars en 1998. Arrivederci, Bertolucci.
Il n'y a pas de grande architecture sans passion.
Au L'Équerre, le prestigieux prix de l'Équerre d'argent qui récompense chaque année un bâtiment réalisé sur le sol français a été attribué hier au centre de consultation et de soins psychiatriques de Metz. L'édifice monumental de béton et de verre qui dialogue avec la nature qui l'entoure est signé Pascal Richter. Dans le même temps, le jury a récompensé 5 autres projets, dont la tour marseillaise de Jean Nouvel dans la catégorie activité et bureau. C'est beau.
Un roman, c'est ce qu'il y a de plus proche de ce qu'est un rêve.
Pascal Quignard, majeur, l'auteur de Tous les matins du monde, a donné ses archives à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, lauréat du Goncourt en 2002 pour Les ombres errantes. L'écrivain qui a pour l'habitude de brûler ses archives a sauvé du feu pour l'occasion certains manuscrits, un millier de lettres et plusieurs éditions complètes de ses œuvres. Une expo est prévue pour le printemps 2020. À la bien.
Je vous ferai découvrir en live les titres de mon nouvel album, Les Sources.
Et un petit coin de paradis à la Maison de la Radio. À partir de 20h ce soir, la scène du Studio 104 accueille Vanessa Paradis pour un concert événement à l'occasion de la sortie de son nouvel album Les Sources, retransmis en direct sur notre antenne et présenté par les amis Rebecca Manzoni et Didier Varro. L'événement sera également disponible en podcast et notamment dans le fil de Boomerang, où il sera en plus accompagné de l'interview que nous avions donnée, plutôt que nous avait donné Vanessa le 14 septembre dernier. Allez là! Et le dessinateur, auteur de bande dessinée, romancier, Nicolas Crécy, invité de Boomerang ce matin. On a parlé de fantômes depuis tout à l'heure. J'aimerais qu'on parle de dessins. Ces dessins que vous exposez en ce moment à Paris et qui sont réunis en un livre de 500 images qui vient de paraître. Quand est-ce que vous avez commencé à dessiner, vous ?
Il y a 52 ans, pratiquement. Enfin, à ma naissance. Oui, c'est vraiment une activité qui, pour moi, est extrêmement naturelle. Et que j'ai maintenu. Enfin, beaucoup d'enfants dessinent, mais moi je l'ai maintenu parce que c'était une passion complète.
Et qu'est-ce que vous dessiniez, vous vous souvenez?
Je me refaisais mes albums de Tintin, d'Astérix, etc. Je refaisais les albums.
Alors il y avait des mondes imaginaires quand même, manifestement.
Oui, il y avait les deux, oui, mais enfin au départ on est toujours influencé par ce qu'on lit, donc je me faisais ma bibliothèque personnelle.
Je vous pose aussi la question, parce qu'en feuilletant le livre de croquis qui vient de paraître aux éditions Barbier et Maton, on se trouve face à un dessin beaucoup plus ancré dans le réel, je trouve, effectivement. Est-ce qu'il arrive que le réel vous manque, Nicolas de Crécy?
Il me manque au niveau du dessin, mais il me manque pas, parce que le réel, on est dedans tout le temps. C'est-à-dire que moi, je m'en échappe quand je dessine ou quand je travaille, mais sinon, le réel, on a le nez dedans.
Et pourquoi vous manquerait-il au niveau du dessin?
Parce que, en fait, quand on exploite uniquement le côté imaginaire, il manque un petit peu un vocabulaire graphique, c'est-à-dire qu'on finit par dessiner toujours la même chose, ce qu'on a dans la tête, et finalement on restreint son vocabulaire graphique. Et c'est un très bon exercice d'aller dehors et de dessiner ce qu'on voit, parce que ça permet vraiment de voir le monde, de bien l'intégrer, et ensuite de le traduire, et d'essayer toutes sortes de directions graphiques différentes.
Se peut-il que l'illustrateur, le dessinateur, l'auteur de bande dessinée soit comme assigné à résidence ?
Oui, c'est le cas. Oui. Effectivement, la bande dessinée, c'est quand même quelque chose de très contraignant, parce qu'il y a un temps, qu'on ne peut pas réduire. Le temps de l'exécution des planches est très long. Il y a la mise en scène, le dessin. Enfin, c'est vraiment un exercice difficile. Et en fait, on est obligé d'être à sa table. C'est vrai que moi, j'ai un caractère un peu nerveux qui m'oblige un peu enfin, je ne peux pas rester plus d'une heure assis à ma table. Donc, c'est vrai que c'est tout le paradoxe de mon travail. C'est que j'adore dessiner, j'adore ça, mais il faut que je bouge.
Et il faut une imagination fertile, une tête remplie d'images aussi, je suppose, d'une certaine culture picturale. Comment on fait pour se détacher de certaines influences ? C'est un enjeu, ça ?
Oui, bien sûr, mais c'est un enjeu maintenant qui date il y a longtemps que je me suis séparé de mes influences. Mais c'est vrai que quand j'avais 20 ans, j'essayais de dessiner comme Gustav Klimt, enfin, en toute modestie. Enfin, voilà, c'était Egon Schiele, Gustav Klimt. Voilà, ça, c'est ce qui m'influençait vraiment, parce que c'était très puissant. Et puis tout ce que j'avais vu étant enfant, et puis tout. C'est vrai qu'on est influencé par plein de choses diverses, et par le cinéma aussi, et par toute source d'images et source de fertile pour l'imagination. Donc,
Ça veut dire qu'il a fallu désapprendre aussi ?
Non, c'est maintenant que j'essaye de désapprendre. Enfin, désapprendre les influences, oui, mais ça se fait petit à petit par la pratique. Obligatoirement, on arrive à un style défini par la pratique. Finalement, les choses convergent vers un style personnel. Après, ça dépend des gens. Moi, je pense que mon style est personnel, parce que je me suis assigné effectivement à essayer de me séparer des choses qui m'influençaient. Après, désapprendre, c'est quand on passe à une autre technique. C'est-à-dire que quand j'écris, je dois désapprendre narrativement ce que j'ai appris par la bande dessinée, parce que c'est une autre façon, c'est un autre médium, donc on s'exprime différemment. Et ça, c'est passionnant.
Vous savez, j'ai envie qu'on entende la voix de quelqu'un qui, à coup sûr, vous a beaucoup inspiré. Il s'agit de Sempé.
Je ne décide pas de faire passer de la douceur. S'il y en a, tant mieux. Mais ça n'est pas une décision de ma part de dire je vais faire New York doux, car il ne l'est pas, non. Le souvenir adoucit toutes les aspérités. Moi, je ne sais pas trop ce que je fais. Je fais des dessins une fois qu'ils sont terminés et parfois publiés. Bon, ben, je regarde le résultat, mais je n'ai pas d'idée préconçue.
Sempé qui ne sait pas, en somme, ce qu'il fait. C'est une archive assez incroyable. Nicolas de Crécy, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ah, mais je suis absolument d'accord avec lui. En fait, le dessin, la création, c'est une cuisine étrange et qu'on ne peut pas analyser au moment où on l'a fait. Donc, effectivement, ça... On réalise ce qu'on est en train de faire et ensuite on réfléchit à ce qu'on a fait et ce qui va permettre de corriger ou d'aller dans une autre direction ensuite. Mais c'est vrai qu'il faut garder cette spontanéité et cette façon de faire très très directe.
Et laisser parler son inconscient aussi.
Aussi, bien sûr. Et il y a le travail de la main aussi. Enfin, il y a tout un ensemble qui fait que ça va fonctionner ou non. Et puis après, ce qui est bien avec le dessin, c'est qu'on le fait. S'il est pas bon, on le jette. Et il est pas visible tout de suite. On n'est pas dans une pièce de théâtre, on va s'exprimer directement avec un public en face, donc on peut travailler dans une espèce de solitude qui permet d'aller très loin et d'évacuer tout ce qui n'est pas bon, et puis de garder ce qu'on estime valable.
Quand je vous ai demandé, pour préparer cette émission, un choc esthétique, pour vous, vous m'avez parlé d'un album de Sempé qui s'appelle « Rien n'est simple ».
Oui, alors Sempé, vraiment, j'admire énormément son travail, et surtout ça, pour moi, c'est vraiment c'est toute mon enfance, mais c'est pas mon enfance n'est pas passée par le petit Nicolas, parce que ça parlait de l'école et justement ça parlait de la réalité. Et la réalité, je voulais pas, enfin, j'avais ma réalité de l'école et je détestais l'école, donc j'avais pas envie qu'on m'en parle encore dans les fictions que j'allais lire. Donc moi, c'était plutôt un livre que lisaient mes parents, qui s'appelait Rien n'est simple, et j'aime bien ce titre. Et effectivement, je devais avoir, je sais pas, 6-7 ans, et j'étais absolument fasciné par les images qu'il y avait dans ce livre. Donc c'était plutôt un livre C'était pas un livre pour enfants. Hein.
Vous vous souvenez d'une image en particulier ?
Oui, je me souviens de... On voyait une dame qui courait derrière un bus, les bus à balcon, avec Paris derrière. Donc, ce que fait souvent Sempé, c'est-à-dire des petits personnages dans un décor immense.
Oui.
Donc, qui replace le personnage par rapport à son environnement d'une manière qui peut être fascinante aussi quand on est enfant. Et surtout, tous les détails, toutes les hachures, les petites hachures, quand il décrivait les façades parisiennes, je trouvais ça absolument extraordinaire. Et je me perdais complètement dans la complexité du dessin. Et c'est pour ça que je dis, moi, les enfants, enfin, on n'est pas obligé d'avoir des dessins simples et colorés. Enfin, quand on est enfant, on peut se régaler d'un dessin compliqué. Et il faut leur proposer ça, évidemment.
Qu'est-ce qui fait un bon dessin pour vous, Nicolas de Crécy ? Est-ce que vous avez fini par le savoir ?
Un bon dessin, c'est un dessin vivant. Simplement vivant. C'est pas parce que ça va refléter... c'est pas celui qui va refléter au mieux la réalité. C'est celui dont on sent... on sent simplement la personnalité de celui qui l'a fait. Et qui fonctionne et qui fait passer quelque chose... c'est vaste, hein, parce qu'il y a des choses qui sont... Il y a des choses qui sont entre guillemets très mal dessinées, mais qui sont d'une puissance extraordinaire. Rézère, par exemple, est un exemple. Son dessin est extrêmement puissant.
Vivant. On va reparler de dessin, hein. Mais aussi parce que ça n'en finit pas de m'intriguer, de fantômes. Juste après Jim Morrison et les Doors, c'est un Ghost Song, 1978. Vous êtes sur France Inter avec Nicolas de Crécy. Vous écoutez Boomerang.
Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream. Come with us. Everything is broken up and dances. Indians scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il n'a pas l'air d'un fantôme, hein. Ni drap, ni chaîne, ni boulet, ni courant d'air, même si c'est vrai qu'il a l'air un petit peu pâle ce matin. Le cheveu noir, le crâne dégarni, l'œil vif, précis, doux, quelque part entre Casper et Henri Potier, le cousin français de Harry Potter qui n'aurait pas 12 ans mais la petite cinquantaine, comme il le disait tout à l'heure, sinon je ne me serais pas permis, avec sa chemise ample ce matin, bleu marine, le dessinateur et auteur de bande dessinée Nicolas de Crécy, invité de Boomerang pour Les Amours d'un fantôme en temps de guerre chez Albin Michel, un roman illustré. Et je crois qu'à l'origine de ce livre, il y en a un autre en fait, un livre qui se trouvait dans la bibliothèque de votre grand-mère, une édition illustrée par Gustave Doré de L'Enfer de Dante. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Oui, effectivement, il y avait un livre de très très grand format, relié en cuir et qui devait... je ne sais pas, c'était une édition du 19e, je suppose. Et comme pour Sempé, c'est vrai que c'était, ça a été un des deux chocs artistiques de pouvoir me plonger dans ces images. Donc on avait d'un côté... le texte, c'était L'Enfer de Dante, illustré par Gustave Doré, et c'est vrai que je me suis, quand j'ai fait ce livre, je me suis rappelé, enfin quand j'ai fait le fantôme, je me suis rappelé un peu de ce livre, et en quelque sorte c'est un peu un hommage de cette lecture de jeunesse, parce que ça existe peu, en fait aujourd'hui ça existe peu, la littérature illustrée existe peu. Il y avait une tradition bibliographique début 20e où on avait des illustrateurs qui illustraient des textes, enfin je pense à Gus Beaufac qui illustrait Macorlan par exemple, ou des choses comme ça. Il y avait quelques il y avait des bibliophiles qui appréciaient ce genre d'édition, et ça existait beaucoup, et maintenant ça n'existe plus du tout.
S'il devait y avoir un grand roman que vous aimeriez illustrer, vous, ça serait quoi?
Peut-être America de Kafka, parce que la première lecture que j'ai eue, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intrigué, en fait. Mais je l'ai relu et ça m'a. C'était moins fertile pour mon imagination à la relecture. Mais c'est très difficile d'exister quelque chose. Enfin, je me permettrais pas, en fait, d'illustrer un auteur, parce que je trouve intéressant d'illustrer ses propres propos, de développer son propre monde. Ensuite, en fait, ça me motive assez peu de dessiner un monde qui n'est pas le mien.
Mais le terme d'illustration peut être mis en question avec vous, parce que moi, c'est ce qui m'a frappé, Nicolas de Crécy, en voyant vos dessins pour ce livre-là. Ils sont pas nécessairement là pour illustrer de manière littérale une situation. Ils sont parfois comme un commentaire ou un aparté poétique. Et là, je pense tout de suite à un dessin qui m'a touché, que je vous ai amené, et qui répond pour moi à une question passionnante, qui est comment représenter la guerre, en fait. J'aimerais que vous le décriviez, peut-être, si vous le voulez bien, ou nous dire au moins ce qui vous inspire ce dessin. Qu'est-ce qu'on y voit précisément, quelle forme, quelle couleur?
En fait, c'est vrai qu'en vis-à-vis, dans le texte, j'explique que c'est la guerre chez les humains. Donc c'est une petite partie du livre, parce que la guerre principale se déroule dans le monde des fantômes. Et je dis juste, la guerre se déroule et c'était une horreur. Et c'est vrai que je le résume par un dessin, et je me suis... Alors le dessin est un peu abstrait, c'est différentes explosions, tout est dans les rouges, dans les jaunes, avec... on a de la fumée, enfin on a... Et en fait, je me suis inspiré pour ça de dessins de... de peinture du mouvement futuriste, où on avait comme ça des espèces de choses très graphiques qui représentaient la guerre. Alors je sais pas si c'est Marinetti qui a fait ces peintures là.
Enfin, c'est possible.
Ils étaient plusieurs dans les futuristes. C'est d'ailleurs un mouvement qui a précédé le fascisme, hein, et qui a été repris en Italie dans l'idéologie, est un peu reprise.
Il y a une structure, effectivement, qui est proche de l'anarchie, ici.
Oui, et puis graphiquement, dessiner des explosions, c'est toujours un plaisir, parce que le trait va dans tous les sens. On peut, derrière, il y a des fumées qui sont pas réalistes. Enfin, c'est un dessin assez curieux par rapport au reste du livre, qui, lui, est plutôt, on est dans quelque chose de très descriptif. Là, on est plus on est plus loin de la réalité.
C'est vrai que souvent, il y a des structures chez vous, et je pense notamment à votre passion pour l'architecture. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien de plus reposant, de plus facile pour vous de dessiner des immeubles, par exemple?
Ah, ça me délasse, c'est les vacances, ouais, des immeubles. ouais, c'est vraiment un plaisir, parce que, en fait, j'en ai beaucoup dessiné. J'étais très, très, très inspiré par, j'adorais dessiner de New York, mais que j'avais jamais vu. Enfin, je suis allé à New York il y a 10 ans, la première fois de ma vie. Mais je l'ai beaucoup dessiné parce que j'aimais beaucoup une photographe qui s'appelle Berenice Abbott, qui photographiait New York dans les années 30, et les images sont magnifiques. Et donc, je dessinais que d'après cette photographe et quelques autres. Et en fait, c'est intégrer le vocabulaire graphique de l'architecture. Et en fait, c'est comme un motif qu'on peut utiliser à l'infini. Je me suis toujours beaucoup, et l'architecture baroque aussi, c'est toujours un plaisir. Enfin.
Mais là, par exemple, Nicolas Crécy, vous avez une feuille blanche devant les yeux. Si vous mettez à dessiner, tiens, maintenant, tout de suite, je suppose qu'il y aura de la structure. Il y aura sans doute peut-être un peu d'architecture.
Il y aura de l'architecture, mais, la structure, alors c'est un autre... Alors je me mets à dessiner.
Je regarde, je jette un œil discrètement.
Voilà, ce qui est assez compliqué, en fait, parce qu'il faut effectivement s'exprimer en même temps qu'on dessine. C'est un exercice qui fait travailler deux parties du cerveau.
C'est boomerang, Nicolas.
Voilà.
On exige quand même quelque chose des invités.
Donc en fait, je commence toujours par... quand je commence un dessin, je commence toujours plus ou moins... Si je dessine un personnage, plus ou moins par l'oreille.
Oh.
Et c'est un mystère, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que c'est le point d'équilibre, c'est étrange. Donc l'oreille, ensuite je dessine l'œil. Là, en l'occurrence, je suis en train de dessiner une tête de chien de profil, parce que là, je suis dans une des conditions un peu stressantes de dessiner plus ou moins public. Donc on ne dessine pas la même chose quand on est dans cette situation et quand on est chez soi tranquille. Donc là, je construis pas un dessin, je fais simplement en sorte de faire en sorte que ça tienne. Donc j'utilise ce que je sais faire. Voilà, donc une tête de chien de profil, je sais faire, j'ai l'habitude.
Un personnage donc, à tête de chien.
Voilà, donc je lui mets un costume parce que ça aussi, ça permet de pas dessiner un corps qui est très complexe à dessiner, notamment un corps de chien. Donc un petit costume, puis ça donne un... Voilà, ça... Ensuite, j'essaye...
Il y a un fantôme ou pas?
Si j'ai le temps, pourquoi pas, j'en ferai un. Enfin, c'est quelque chose de relativement rapide à faire, un fantôme, puisque c'est juste un drap blanc. Voilà, et donc je commence effectivement l'architecture derrière. Et là, ça me permet de parler librement parce que...
Vous l'avez dit, l'architecture, ça repose.
Voilà, ça repose. Donc je dessine une coupole, des fenêtres. Alors les fenêtres, c'est bien parce que ça permet aussi de remplir l'espace sans trop se fatiguer. Voilà, et ensuite, après l'architecture, c'est vrai que j'aime bien figurer des montagnes parce que les montagnes, pour moi, c'est quelque chose aussi de très reposant, et quand je ne dessine pas, je marche en montagne, et c'est quelque chose qui est assez proche par rapport à la façon dont ça fait travailler l'esprit, la découverte de paysages, c'est vrai que le dessin pour moi est un peu comme la marche.
On va le montrer aux auditeurs de France Inter, Nicolas de Crécy, ce dessin. Moi, je vais peut-être le garder même, parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup à mon chien.
D'accord.
En tout cas, je voulais vous remercier. Vous le continuez pendant le disque, d'être venu faire un tour dans cette émission. Et je voudrais rappeler que Les Amours d'un fantôme en temps de guerre est publié chez Albin Michel, et que le troisième volume de vos dessins et croquis vient de paraître aux éditions Barbier et Maton. Vous serez, je le précise, au Salon du Livre et de la Jeunesse de Montreuil, qui ouvrira ses portes demain et qui vous décernera peut-être, on le souhaite en tout cas, la pépite d'or. Nicolas, on croise les doigts. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers.